Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs de Istres et peut-être aussi d'ailleurs, puisque certainement il y a quelques visiteurs. Nous sommes en plein cœur des congés, des vacances. C'est comme ça que le pasteur, il est en vacances. Mais les retraités sont toujours... Nous, on est tout le temps en vacances, alors c'est normal qu'on travaille un petit peu quand même. Mais ce n'est pas du travail, c'est de la joie, c'est de la rencontre, et c'est toujours avec joie qu'on se retrouve ensemble, ici à Istres, dans la communion fraternelle. Voilà, ce matin, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Matthieu, chapitre 4, et verset 17. D'ailleurs, même si vous n'avez pas la Bible, vous avez... les paroles qui s'affichent, l'écriture qui s'affiche. Matthieu 4, 17. Voilà. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Parce que la vraie vie, c'est suivre le bon berger, hein ? C'est suivre le Seigneur. Jésus passe le long de la mer, il rencontre Pierre et André, puisqu'ils sont frères. Ils sont quoi ? Ils sont pêcheurs de poissons. Mais Jésus a un appel pour eux, une vocation. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai, vous n'êtes pas, mais je vous ferai de vous des pêcheurs, mais mieux que de poissons, des pêcheurs d'hommes. Hein. Parce que pêcheur de poissons, c'est bien, il en faut. On aime le poisson, on nous dit toujours manger beaucoup de poissons. Hein. Voilà. Hein. Mais pêcheur d'hommes, alors là, c'est un appel, c'est une vocation. Il va faire d'eux. Ils ne sont pas, ils sont que des pêcheurs de poissons. Mais Jésus a un appel, il a une vocation. Il va faire quelque chose. Ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire, ça va se réaliser. Peut-être pas dans l'instant, mais dans le futur. J'aimerais vous dire ce matin, le Seigneur a un plan pour chacune de nos vies. Amen. Il va faire. Il a un plan. Parfois, nous sommes là un petit peu en disant, mais qu'est-ce que ma vie ? Le Seigneur, ne t'inquiète pas, il a un plan, il a une vocation, ça s'appelle un appel. Et le Seigneur a fait entendre son appel à Pierre, et puis André, et puis un jour l'appel de Dieu a retenti dans notre cœur, dans mon cœur. Il a dit, laisse tes ciseaux et tes peignes, viens et suis-moi. Ça c'était parce que j'étais coiffeur, vous voyez, vous avez tout compris maintenant, hein, il faut que je vous explique, hein, mais vous le savez déjà. Hein. Il y a l'appel. Alors bien sûr, le Seigneur nous a pas tous appelés à être... apôtres, prophètes, docteurs, etc., ou annoncer la parole. Mais il nous a tous appelés, vous savez qu'il y a le grand appel, à le suivre. À le suivre. Il nous a tous appelés à être ses témoins, ses enfants, ses ambassadeurs. Le Seigneur a un plan, et le plan de Dieu, le plan du Seigneur, l'appel du Seigneur est toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Nous ne savons pas toujours comment on l'entend. On ne sait pas toujours dans quelle voie, dans quelle direction, Mais le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. La Bible dit que Dieu a préparé dans son amour, c'est dans Paul qui le dit aux Éphésiens, Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Il les a préparées. Le Seigneur a conçu comme un plan pour l'humanité, mais pour chacune d'entre nous, il y a une vocation, un appel, comme l'Église a une vocation d'être le sel de la terre, la lumière du monde, d'apporter au monde eh bien, le beau message de l'Évangile. Il y a un appel. Et Pierre a eu cet appel. On va se concentrer ce matin sur Pierre. On va regarder un petit peu sa vie. Et le Seigneur lui montre un peu le but, l'objectif. Et on sait que cela s'est pleinement réalisé, cette parole, pêcheur d'hommes, là où il a fait une belle pêche, c'est au jour de la Pentecôte. Amen. Il a prêché l'Évangile, rempli du Saint-Esprit, il a annoncé la bonne parole. Et ils ont dit, mais que ferons-nous à ton message ? Qu'est-ce que, après ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, bouleversé. Et Pierre leur a dit, eh bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Donc, ce jour-là, il a jeté le filet de l'Évangile, la bonne nouvelle, et il y a eu 3000 gros poissons. Amen. Et oui, ça a été une belle pêche. Mais la pêche n'est pas finie. Le Seigneur continue à accorder le salut et que des âmes soient sauvées encore en grand nombre. Voilà, je ferai de toi. Il est arrivé à la Pentecôte. Mais entre le moment où nous rencontrons Pierre, là, c'est le départ, c'est le commencement, c'est l'appel. Suis-moi. Suivre, s'engager. Je vais faire, je vais réaliser. Et le moment où Pierre est... au jour de la Pentecôte, en train de prêcher, 3000 personnes se sont faites baptiser, engager, et puis l'Église est née, il va aller de l'avant et continuer à prêcher la bonne... Il y a 3 ans qui s'est passé, hein. 3 années qui se sont passées avec Jésus. Suivre Jésus, alors il l'a suivi. Mais des fois, comme nous allons le voir, suivre le Seigneur, on s'engage. Quand on prend... le baptême, on dit, ben, « Seigneur, je te suivrai. » On pose les questions, « Est-ce que vous engagez ?»« Oui, je m'engage. » On a dit « Oui. » Et que notre « Oui » soit « Ça, oui. Hein. » Et on a dit « Oui. » Avec sincérité de tout notre cœur, on répond à cet appel. Mais comme nous le voyons dans la vie de Pierre, à un moment donné, il a faibli. Et nous le verrons. Comme nous, nous ne voulons pas faiblir, et le Seigneur ne veut pas que nous faiblissions, il veut que nous puissions le suivre jusqu'au bout, et fidèlement. Et à un moment donné, d'ailleurs, Jésus parlera de Jean, de l'apôtre Jean, de Jean qui était avec, bien sûr, les apôtres et tout ça. Il lui a dit, et lui, qu'est-ce qui va venir ? Pierre lui a dit, toi, t'occupe pas de Jean, qu'est-ce que si je veux que toi... Suis-moi. Vous voyez, c'est quand même toujours personnel, c'est cette insistance. Suivre le Seigneur. On s'est engagé, on doit le suivre. Alors, dans les bons comme dans les mauvais jours, de le suivre fidèlement, de le suivre jusqu'au bout, et que le Seigneur, dans sa grâce, eh bien, nous donne de surmonter. Parce que suivre le Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Au contraire, je dirais, il y a beaucoup d'obstacles, de difficultés, d'épreuves, de tentations. L'ennemi de nos âmes fera tout pour nous arrêter. Mais par sa grâce, nous pouvons surmonter et aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je sais que quand le Seigneur m'a appelé à lui, il y avait une prophétie ou une interprétation, peu importe, dans l'appel, et cette prophétie, en 2 mots, elle disait ceci, « Oui, ton chemin ne sera pas difficile, peut-être tu tomberas, mais je serai là pour te relever. » Il faut toujours se souvenir de l'appel du Seigneur. C'est ce qui nous guide dans la vie. Parce que c'est le but, c'est l'objectif. Vous savez, c'est un peu comme Joseph. Joseph, eh bien, il a eu des visions, révélations. Il a vu les gerbes, sa gerbe au milieu, puis les gerbes de ses frères. Alors, bien sûr, ça faisait un peu prétentieux de dire comment les gerbes, d'ailleurs, ils lui ont dit, hein, toi, le rêveur, là, comment on va se prosterner devant toi. Mais le Seigneur lui montrait déjà au loin qu'un jour, il régnerait, qu'il atteindrait, il régnerait. Mais le Seigneur ne lui a pas montré le chemin par lequel il passerait pour arriver au but. Hein. Heureusement que le Seigneur ne nous révèle pas tout, hein. Mais il nous révèle l'essentiel, déjà le but, l'objectif. Nous aussi, nous avons un objectif, un but, c'est entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas ? comme Abraham, la Bible dit, une large entrée lui sera donnée dans le royaume de Dieu. On ne va pas être sauvé de justesse, sauvé au travers du feu. Vous voyez, tout juste. Vous me direz, c'est déjà bien. On disait toujours, autrefois, il vaut mieux un strapontin au ciel qu'une belle place en enfer. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Bon, alors on se contentera d'un strapontin, mais non, le Seigneur veut nous donner un grand fauteuil, n'est-ce pas? Puisque la Bible dit, nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, quand il lui parle là, il appelle Simon. D'abord, il s'appelle Simon. Et Jésus va changer son nom. C'est dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Il va lui donner déjà, vous voyez, une perspective. Tu es Simon. Alors Simon, ça signifie fils de Jonas. Tu es celui qui entend. Oui, entendre l'appel. Mais je vais faire de toi Céphas, ce qui signifie pierre, une pierre. Et je crois qu'au départ, il est loin d'être une pierre, comme nous aussi. Nous sommes fragiles. Mais le Seigneur veut nous affermir, il veut nous rendre inébranlables. Il veut que nous soyons fondés, enracinés à tout vent, n'est-ce pas, comme des colonnes. Quelque chose qui sera affermi. Pierre est bien fragile, c'est ce qu'on découvre. Pierre est bien fragile. Comme nous aussi, nous sommes fragiles. L'esprit est bien disposé. Je te suivrai. Mais la chair est faible. La vieille nature est là encore. Et nous avons tous ce combat. Mais le Seigneur travaille pour faire de nous des pierres solides, des rochers, de ceux qui sont stables. Et Pierre, pour l'instant, eh bien, il a besoin de devenir stable. Quand on change un nom dans la Bible ou on modifie son nom, c'est qu'on change sa nature, son identité. Vous vous rappelez Jacob le supplanteur, le trompeur. Eh bien, le Seigneur va faire de lui Israël. Et Israël, ça signifie vainqueur. Alors même si au départ, eh bien, il était Jacob le supplanteur, maintenant, il est Israël. Le Seigneur nous prend tel que nous sommes, il travaille nos vies, il nous façonne nos modèles, il nous affermit, et puis il veut faire de nous des hommes et des femmes solides, inébranlables, qui surmonteront l'adversité, la tentation, les épreuves, l'avenir, et qui seront debout car le Seigneur va revenir. Amen. Ça, c'est un beau programme, parce qu'il nous a appelés à son royaume. Vous savez que sur la terre, on n'est que de passage. Alors, j'entendais tout à l'heure un frère qui me disait, « Ah, il faut que je revoie ma maman, elle a 102 ans. » Oui, là, il ne faut pas attendre encore 15 ans, quoi, soyons honnêtes. Et c'est vrai. Alors, même si nous vivons 102 ans ou plus, ce qui est important, c'est que nous marchions avec le Seigneur. Donc ainsi, Pierre, eh bien, il va faire partie des 12 et même le premier. Il est nommé le premier. Le premier, il est nommé dans la... Jésus les a appelés, les 12, pour les avoir avec lui et pour les envoyer, annoncer. Il leur donne le nom d'apôtre. Apôtre qui signifie « envoyé ». Je vous ai appelé, vous me suivez, je vous qualifie, je vous forme, et puis maintenant, je vous envoie, vous êtes mes envoyés. Et ils vont partir, annoncer la bonne nouvelle, ils vont guérir les malades, ils vont exercer encore ensemble le ministère, ils vont participer, être associés au ministère de Jésus qui est glorieux. Et Pierre va connaître des choses merveilleuses. Parce que quand on suit le Seigneur, on connaît des choses merveilleuses et glorieuses. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Luc. N'est-ce pas, à un moment donné, Jésus a dit, « Eh bien, écoute, Pierre, avance en pleine eau, et jetez vos filets. » Toujours, vous voyez, question de pêche. Et Pierre dira, « Mais j'ai travaillé toute la nuit. » Tu serais plus fort que moi, en somme. Eh oui. J'ai travaillé toute la nuit, je suis fatigué, c'est le moment d'aller. Mais j'ai rien pris. Et toi, en plein jour. Mais tu n'es pas un pêcheur. Moi, je suis maître pêcheur, n'est-ce pas? Je connais la pêche, tu ne vas pas m'apprendre mon métier. Eh oui, mais Jésus est plus fort que lui. Vous savez, des fois, le Seigneur nous montre qu'il est quand même beaucoup plus fort que nous. Heureusement, d'ailleurs, pour nous. Et que Pierre... eh bien, il va obéir. Sur ta parole, j'irai jeter le filet. Il avance en pleine eau, il jette le filet, et le filet va se remplir. Jésus avait dit les filets. Bon, il a rempli le filet. Et Jésus aurait pu remplir encore d'autres filets. Hein. Des fois, on peut limiter, hein. C'est nous qui limitons. Si on jette un petit filet, on pourra attraper qu'un peu de poisson. Hein. Mais si on jette plusieurs filets, on remplira plusieurs filets. En attendant, il a fait une pêche, on donne le nom, la pêche miraculeuse. Alors Pierre est content, n'est-ce pas ? Il revient sur le rivage. Et ils ont même appelé des amis, venez avec nous, ils ont rempli deux barques. Et en arrivant sur le rivage, il dit, c'est formidable Jésus, je vais m'acheter maintenant un plus grand bateau. Comme ça, je ferai une plus grande pêche. Non, il est tombé aux pieds de Jésus. Et il a dit, je suis un homme pécheur. Eh oui, je ne suis pas digne, en somme. Le miracle l'a amené à la repentance. Le miracle l'a amené à réaliser qu'il est confondu, il est confondu. Je ne suis qu'un homme pécheur. Je vous fais remarquer qu'il n'a pas dit, il n'est pas convaincu par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il est. Il n'a pas dit « j'ai péché », il a dit « je suis un homme pécheur, c'est mon identité ». Et il a bien raison, n'est-ce pas ? Il a bien raison de le réaliser, qu'il est comme un homme pécheur. Comme le Romain, n'est-ce pas ? Il dit « Seigneur, mon fils est malade ». Alors Jésus dit « je viendrai, je le guérirai ». Non, 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 Seigneur, je ne suis pas digne. Que tu entres sous mon toit. Vous savez, la bonne attitude vis-à-vis du Seigneur, c'est toujours une attitude d'humilité et de vérité. Alors on voit Pierre, la pêche miraculeuse, on voit qu'il accompagne Jésus, il est présent à la résurrection de la petite fille de Jaïrus. C'est quelque chose d'important, n'est-ce pas ? Il est présent sur la montagne de la transfiguration. Il voit, à un moment donné, il voit Jésus dans la gloire, la gloire. Il partage ses moments, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Même il a l'audace de dire à Jésus, « C'est toi, Seigneur, eh bien, ordonne que je vienne vers toi. » Il veut venir sur Jésus parce que Jésus vient vers eux après la tempête, n'est-ce pas, marchant sur l'eau. Et il a l'audace de sortir de la barque et d'aller vers Jésus. Il a marché sur l'eau. Mais Jésus lui avait dit, « Viens. » Vous savez, il ne faut pas sortir de la barque si Jésus ne vous dit pas « viens hein ». Moi, je ne sortirai pas de la barque parce que je vais couler. Hein. Et il n'y aura peut-être pas que moi. Hein. Mais sur ta parole, voyez, si c'est le Seigneur qui dit « viens », il faut venir. Si c'est ce matin, le Seigneur dit « encore viens », il faut aller. Si le Seigneur dit « jette ton filet », il faut jeter ça. Si le Seigneur te dit « suis-moi », il faut obéir. Le disciple, c'est celui qui obéit à l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas celui qui impose au Seigneur sa manière de voir ou de faire. Parfois, nous prenons le problème à l'envers. C'est-à-dire, nous sommes là, en train, un peu comme Jacob, où il pose les conditions. Hein, vous avez vu, Jacob, il pose les conditions. Il dit, oh Dieu, si tu me bénis, si tu m'accompagnes, si tu me fais ça et tout encore, alors tu seras mon Dieu. Vous savez ce qu'il fait, Jacob ? Il met Dieu à ses pieds. Mais c'est pas, nous n'avons pas à mettre Dieu, Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous les serviteurs, c'est nous à nous mettre aux pieds du Seigneur. Il y a des gens qui viennent avec conditions. Autrefois dans la religion, on était souvent comme ça, on disait, ah, si tu me fais retrouver les clés, Saint-Antoine de Padoue, alors je te donnerai deux sous. Hein, on faisait toujours des marchés. Ah, si tu m'accordes ça, je ferai ça. Non, mais ça c'est... Là, vous êtes dans les ténèbres, là. Hein? Non, non. On honore le Seigneur en le suivant sans condition, parce que son amour a touché notre cœur et notre vie. Il a quand même, pour parler encore un tout petit peu de Pierre, il a eu cette merveilleuse parole, c'est dans Matthieu 16, 17. À un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors les uns disaient une chose, les autres, tu es un prophète, et ceci. Et vous, et toi. Et Pierre, qui est toujours prompt à parler, parce que vous avez remarqué, il aime bien parler quand même. Hein. Vous, non, mais lui, il est prompt à toujours, il a toujours quelque chose. Hein. C'est un impulsif, hein, ce Pierre. Il est sympathique, mais pas toujours réfléchi, n'est-ce pas? Alors il parle vite. Et il a dit, « Ah, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ah, il a une révélation, la vraie identité du Seigneur. Et Jésus lui dira, « Eh bien, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a déchiré le voile, qui t'a ouvert l'esprit, qui t'a donné ma véritable identité. Hein » Parce que Pierre l'a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est là que Jésus lui dira, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » L'Église de Jésus est bâtie sur cette pierre. Pas Pierre, le nom de Pierre, mais la déclaration que Pierre a faite. Parce que dans l'original, c'est, je vous le retraduis, « Je te dis que tu es Pierre, c'est Pétros, que sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon Église. » L'Église, elle n'est pas bâtie sur Pétros, elle est bâtie sur Petra. Vous m'avez suivi, hein? Petra, sur la confession de Pierre, de tous ceux qui déclarent que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur, l'envoyé du Père, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, et qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est divin. Il est à la fois le Fils de l'homme et Fils de Dieu. Et la double nature, Fils de Dieu. D'ailleurs, pour bien être convaincu de la chose et bien comprendre de l'importance, les Juifs religieux qui savent bien les choses, ils ont dit, mais tu sais pourquoi on te crucifie? Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu t'es fait appeler Fils de Dieu. Et pour eux, ils avaient bien compris, les Juifs, que Fils de Dieu, ça veut dire être Dieu. Et toi qui es un homme, tu te fais appeler Fils de Dieu, tu dis que tu es le Fils de Dieu, alors c'est pour cela qu'ils l'ont condamné et rejeté. Et à partir de ce moment, dit l'Écriture, à partir de ces moments de révélation, on arrive après les 3 ans, Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup et qu'il serait mis à mort, et que le 3e jour, il ressusciterait, et il donnait rendez-vous à ses disciples en Galilée. On va lire maintenant dans Matthieu 26, 30. On donne liaison pour bien comprendre que nous arrivons au moment où Jésus va leur révéler eh bien, que c'est l'heure de la croix, et ça, les disciples, ils ne vont pas bien le comprendre. Comme nous, parfois aussi, on a un peu de mal à comprendre ces choses-là. Et c'est l'heure de Gethsémané, c'est l'heure solennelle, c'est l'heure du grand combat, c'est l'heure de l'épreuve, de l'épreuve. Donc, Matthieu 26, 30, « Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc Jésus annonce bien sa mort, mais il annonce sa résurrection et il annonce ce rendez-vous pour la Galilée, n'est-ce pas, ou pour l'ascension. Donc je continue. Pierre prenant la parole, il est toujours prompt à parler, hein. Ah, c'est normal, il est le premier. Hein. Il lui dit, ah non Seigneur, quand tu serais pour tous, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est bien écrit, il a bien dit, tu le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, « Tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Donc c'est l'heure cruciale, c'est l'heure de la croix, c'est l'heure de Gethsémané, c'est l'heure de la décision. Le berger va être frappé à la mort. Et Jésus l'annonce, et c'est clair, et c'était annoncé, le Messie devait souffrir, etc. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, ça va être la dispersion. Je voudrais vous montrer tout simplement, on va le voir ce matin, les sept pas. Vous voyez, ce n'est pas fini encore, hein, vous avez encore un peu de temps. Hein. Les sept pas, les sept escaliers qui descendent du reniement de Pierre. Pierre n'a pas renié Jésus comme ça, mais c'est un ensemble de choses qui ont montré que lui, qui dit « Seigneur, je te suivrai », qui a vu des miracles, qui a participé à la vie du Seigneur, la communion, qui a eu des révélations, qui a marché sur l'eau, cet homme, eh bien, va renier le maître. Alors, c'est comme on peut dire ce matin, mais vous nous dites ça, mais nous, on reniera jamais le maître. Bien sûr, on ne veut pas renier le maître. On veut être fidèle, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce qui a amené à Pierre, cet homme, après toutes les révélations, les miracles, les choses qui se sont, le programme de Dieu, etc., à faiblir? Premièrement, ce qui l'a amené, c'est de dire, si les autres t'abandonnent, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Ça s'appelle de l'orgueil. Et la première faille dans le cœur de Pierre, c'est pour ça qu'il va passer par ce processus, pour que le Seigneur fasse de lui eh bien, un homme complètement transformé. Ça s'appelle de la présomption, hein. Ça s'appelle de la suffisance. Il est complètement aveuglé, il dit les autres peut-être, moi Pierre. Donc je crois qu'il a bombé un peu le torse, hein. Il a dit c'est moi Pierre. Eh bien toi Pierre, tu crois que tu es fort, mais tu n'es pas si fort que ça. Et honnêtement, nous aussi, nous pouvons nous croire forts dans le Seigneur même, parce que nous avons des années de marche avec lui, des expériences, on a exercé plein de choses, des ministères, mais notre force, frères et sœurs, elle n'est pas en nous. C'est là qu'il faut bien comprendre. Si j'ai confiance en mon cœur pour suivre le Seigneur, je n'irai pas loin. Mais notre confiance, elle est placée en lui. C'est lui notre force, c'est lui qui nous tient debout, c'est lui qui par sa grâce eh bien, nous affermit, nous transforme et nous utilise et se sert de nous. Si nous sommes là ce matin et si nous sommes encore fidèles et debout et si nous suivons le Seigneur et nous voulons le suivre jusqu'au bout, c'est par sa grâce, c'est parce que dans son amour il nous tient, mais nous, nous sommes que faiblesse. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, il l'a dit, mais vous savez qu'entre dire et faire et tenir, il y a une marge. Que ce matin, toute forme de présomption, j'allais dire, d'orgueil, de fierté, eh bien, le Seigneur permet parfois que nous passions par l'épreuve pour briser ces choses-là, pour nous amener dans une position d'humilité, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste à Pierre, l'orgueilleux, le présomptueux. Et c'est pour ça qu'il est passé par ce chemin où il a besoin d'être eh bien, débarrassé de lui-même. D'ailleurs, dans la Bible, vous voyez Lucifer. Il était le plus beau, tout était merveilleux, il était parfait, une grande beauté. Et la Bible dit qu'il a dit à un moment donné, « Je serai semblable au Très-Haut. Hein. » Il s'est mis... Et vous savez que le principe, c'est celui qui s'élève sera abaissé. Restons toujours, frères et sœurs, humblement dépendants du Seigneur. Notre confiance, elle n'est pas en nous, elle n'est pas dans les autres même. Elle est dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui a confiance en son cœur, c'est un insensé. Eh oui, confiance. Celui qui se croit sage, fort, intelligent, merveilleux, sans moi... D'ailleurs, il y a des gens qui disent « Sans moi, la terre, elle ne tournerait pas. Hein » Ou elle ne tournerait plus. L'orgueil, c'est la chute, n'est-ce pas? Là, je dis souvent, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et l'orgueil, c'est la racine de toute chute. Pour tenir et suivre le Seigneur jusqu'au bout, que le Seigneur nous donne de marcher humblement tous les jours avec lui. Amen. Je répète, notre confiance n'est pas en nous, mais notre confiance et notre force est en lui. Le deuxième palier, hein, je vous ai dit, ça c'est le départ. Mais on voit que chez Pierre, dans Matthieu 26, 40, il est dit, Jésus à Gethsémané leur a dit, « Veillez et priez, je vais prier. » Il est là, ils sont là normalement pour le soutenir. Hein. Puis Jésus se met à l'écart, il prie, il revient. Qu'est-ce qu'il il leur dit de veiller et eux, ils dorment. Ils se sont endormis. Deuxième point, il ne faut pas s'endormir. Ni s'endormir à la réunion, quoique des fois, il y en a qui font... Ah, c'est le dimanche après-midi qu'on fait la sieste. Hein. Mais des fois, on... Et vous savez, le sommeil, c'est terrible parce que quand vous êtes fatigué, vous ne vous rendez même pas compte que vous dormez. Hein. Le sommeil. Vous conduisez. Moi, ça m'est arrivé une fois. Bon, je me suis ressaisi. On s'endort. Donc, il faut garder la vigilance. Veillez, dit le Seigneur. Veillez et priez. Les temps sont difficiles. Les séductions sont là. Jésus dit, il y aura des faux prophètes, des faux aussi, des faux... Que personne ne vous séduise. Vous voyez, en somme, cette prédication, c'est un avertissement. C'est pour nous appeler à la vigilance, à la prudence. Parce que le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents. Hein. Soyez doux et humbles de cœur comme lui. Mais il ne faut pas dormir. D'ailleurs, il l'avait dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, dans les pièges. Parfois, il nous est arrivé de tomber dans des pièges parce que nous n'avons pas veillé. Donc, il faut veiller. Quand vous marchez, en principe, vous avez les yeux ouverts. Hein? Parce que si vous vous endormez en marchant, ça veut... là, le premier poteau, il est bon. Hein? Surtout ici, il y en a deux, ils sont costauds. Hein? Ils ne plieront pas comme ça. Hein? Veillez, veillez. La vigilance. Premièrement, ne pas placer sa confiance en soi, mais dans le Seigneur. Deuxièmement, être vigilant, avoir les yeux ouverts, et les yeux ouverts sur le Seigneur, n'est-ce pas? Troisièmement, Jean 18, 10, Pierre ayant une épée à la main, il a dégainé l'épée, il l'a sortie, il y a le serviteur du souverain sacrificateur qui était là, Malchus, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, il a sorti l'épée et il lui a coupé l'oreille. Il défend Jésus, une arme à la main. Ça, c'est une œuvre de la chair de l'homme. On ne défend pas Jésus avec violence. On ne défend pas Jésus avec force. C'est pas le plan. Parfois, on a pu dire, par exemple, un exemple. « Ah, si vous ne croyez pas dans le Seigneur, vous voyez les flammes de l'enfer. » Non, non. C'est pas les flammes de l'enfer qui nous ont fait tomber dans les bras du Seigneur, c'est son amour. C'est son invitation, c'est sa grâce. Hein? On ne menace pas. Vous avez remarqué que la religion emploie la force. Mais ça, c'est les religions du monde qui sont dans l'erreur. Mais le Seigneur n'emploie pas la force. Il n'a jamais employé la force. Hein? Ni la violence, ni la force. Non, il n'a employé qu'une arme, c'est l'amour. D'ailleurs, il est bien dit et écrit... remets ton épée dans le fourreau et il est écrit celui qui prend l'épée il périra par l'épée hein? Et parfois l'épée elle est faite même Proverbe 12, 18 dit que la langue peut avoir un coup d'épée et blesser donc ça peut devenir une épée hein? Donc c'est pas une mitraillette c'est pas un poignard, c'est pas une épée. Mais la langue aussi, elle peut faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'il faut veiller. Donc, troisièmement, il a pris la force, mais après, quand il faiblit. Hein. Quatrièmement, Matthieu 26, 58. Eh bien, à ce moment-là, au moment de l'épreuve, hein, il suit Jésus. Comment il suit Jésus? Eh oui, mais vous me direz, il suit Jésus. Le Seigneur lui a dit, « Suivez-moi !» Alors il suit le Seigneur, « Suis-moi !» Il suit, mais de loin. il ne suit pas Jésus de la bonne manière. Il ne faut pas suivre Jésus à aux jumelles. « Ah, je vois à peu près le Seigneur, il est un peu loin, n'est-ce pas ?» Non, non, il faut le suivre de près. Hein. Parce que quand vous voyez quelqu'un de loin, vous le voyez petit. Mais là, je le vois grand, n'est-ce pas ? Tandis que les sœurs, là-bas, je les vois petites, hein, n'est-ce pas ? Là, ça change de vision. Il faut suivre Jésus de près. Il ne faut pas suivre Jésus de loin. Il y en a qui le suivent en secret. Il y avait un disciple qui le suivait en secret, mais nous devons suivre Jésus. C'est-à-dire, nous ne devons pas laisser entre le Seigneur et nous une distance. Il y a des fois, j'ai entendu cette réflexion, je prends une distance avec l'Église. Je prends une distance, en somme, avec le Seigneur. Non, non, il faut être tout près de Jésus. Moi, je crois que la bonne place, c'est Jean qui l'avait. Lui, il était assis à côté de Jésus et il avait sa tête sur le sein de Jésus. Il entendait battre le cœur de Jésus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Pierre, parce que Jésus annonce que quelqu'un va le... Alors, plus que le renier, là, le vendre, le trahir. Judas, bien sûr. Et Pierre, comme il est quand même un peu loin de Jésus, eh bien, il fait signe à Jean de demander. Il ne faut pas avoir d'intermédiaire. Avant, on avait des intermédiaires, on avait des prêtres. Demandez pour moi, Dieu. Même on peut prendre le pasteur pour un intermédiaire entre Dieu. Le pasteur a son rôle, c'est pas ce que je veux dire. Il est bon de donner la place. Mais n'oublions jamais que la nouvelle alliance par l'Esprit nous donne une relation directe. Ouais. On n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Ok, vous me suivez toujours. Donc, hein. Eh oui, il suit Jésus de loin. Et là, on se refroidit. Hein. C'est comme le fils prodigue, il est parti dans un pays éloigné. Non, restons toujours prêts. Hein. Toujours près des uns et des autres. Cinquièmement, allez, encore un peu. Cinquièmement, Luc 22, 57, il s'assoit à un feu parce qu'il fait froid. En réalité, il fait froid, c'est la saison froide. Dans la cour du souverain sacrificateur, on va juger Jésus. Il est rentré dans la cour, il y a des serviteurs, et lui, il s'assoit avec eux. Il ne faut pas s'asseoir avec les païens. Enfin, il y a façon de, vous avez compris, avec les pécheurs, les moqueurs. Il y a un proverbe qui, c'est un psaume qui dit « Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs ». Vous, vous êtes bien assis ce matin, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas assis au milieu des pécheurs, vous êtes assis dans l'assemblée de Dieu, n'est-ce pas ? L'assemblée du Seigneur, normalement c'est le Seigneur qui règne. Vous êtes à la bonne place. Alléluia. D'abord, il n'y a que des bonnes places. Être assis, il faut faire attention. C'est Paul qui disait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on ajouterait, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Vous savez, ça c'est un peu de la sagesse, hein, c'est une forme de sagesse. Si vous vous plaisez toujours dans des lieux, bon, je ne vais pas parler de choses, ce n'est pas la peine de nommer, mais il y a des fréquentations qui sont nuisibles, parce que c'est ou vous qui allez les entraîner, ou c'est eux qui vont vous entraîner. Il y a des personnes qu'on ne peut plus fréquenter. Ce n'est pas qu'on n'est pas témoin de Jésus auprès d'eux, au contraire. Le Seigneur les aime et veut les sauver, et que nous devons... Mais il y a manière d'associer. On ne peut pas associer la lumière et les ténèbres. On ne peut pas s'associer, n'est-ce pas, le pur et l'impur. Il y a des compagnies, il y a des personnes qui sont relevées de certaines situations, j'ai connu, etc. Mais j'aurais dit, bon, écoutez, il y a des lieux, il ne faut plus y aller. Des personnes, il ne faut plus les voir. Ce n'est pas qu'on vous interdit, mais vous allez faire du mal à votre âme. Vous ne pouvez plus fréquenter des infréquentables. Si vous vous plaisez au milieu de ces gens-là, ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas s'asseoir à des feux étrangers. Il faut s'asseoir là où il y a la flamme du bon esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Sixièmement, donc là, ça commence à aller mal, hein. Ça commence à aller mal. Hein. il y a une de ses servantes qui commence à dire, mais toi là, je t'ai vu avec ce Galiléen là, hein, qu'on va juger, condamné là, on va le mettre à mort. Je t'ai vu. Et là, il dit pour la première fois, je ne le connais pas. C'est un mensonge ça, il le connaît. 3 ans avec lui, il a partagé, il a guéri les malades en son nom, vous vous rendez compte? Il est allé au nom de Jésus, je vous annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus qui est venu, c'est le Messie, croyez en lui, repentez-vous, croyez. C'est terrible ça, hein? C'est un mensonge, ce n'est pas la vérité, c'est un aveuglement, n'est-ce pas? Il le nia, je ne le connais pas. Mais le mot connaître là veut dire je n'ai pas de relation avec lui. Vous vous rendez compte, il s'exclut, il se sépare, il dit je n'ai pas de relation avec lui. Et une autre femme vient à côté, toujours la même, elle dit, mais ton accent, toi, te fait reconnaître. Vous savez, quand on va à Paris, nous, on se fait reconnaître. Hein. Mais les Parisiens, on les reconnaît. Quand moi, je vois mon beau-frère, mon gendre qui vient, je dis, ah, t'es un Parisien, toi. Hein. Eh oui, ma petite fille, maintenant, elle parle comme les Parisiens. Elle n'est pas du Sud. Eh oui. Ton accent, les Galiléens, ils avaient un accent fort comme Marseille, n'est-ce pas? Et on les reconnaissait rien qu'à l'accent, la manière de parler. Mais que tu parles comme un... Et deuxième fois, il dit, je ne le connais pas. Et là, à un moment donné, aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il cherche la porte, il cherche une sortie de secours, quoi. Hein. Il cherche... il est mal à l'aise, vraiment, il est mal à l'aise, hein. Donc, il se dirige vers la sortie. Hein. Mais quelqu'un est encore là et le bloque. Et lui dit encore pour la troisième fois, n'est-ce pas? Mais tu étais avec cet homme. Tu étais avec cet homme. Là. Et il le nie pour la troisième fois. Vous voyez, il y a un endurcissement là. S'il avait aimé Jésus comme il devait l'aimer, il n'aurait pas dit tout cela. Il se sépare. C'est un drame, c'est difficile. Vous voyez que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Moi, je ne jette pas la pierre à Pierre, c'est le cas de le dire. Hein. Loin de là. Vous savez, on a lu là, ce matin la lecture à la Sainte-Seine. Il est dit, le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous bronchons tous de différentes manières. Les uns, c'est peut-être avec la langue, les autres, c'est avec les yeux. On bronche tous. Il n'y a pas de fort ici. Il n'y a que des hommes et des femmes qui vivent dans l'humilité, dans la grâce du Seigneur et dans la dépendance du Seigneur. C'est lui notre force. Ainsi, pour la troisième fois. Et là, le coq, il chante. Alors, ça dépend des évangiles, mais il a chanté 2 fois. Et l'Écriture avait dit, Jésus lui avait dit, tu me renieras 3 fois. Et là, il y a un commencement de renouveau. Il se souvient de ce que Jésus lui a dit. Ah, Jésus lui avait dit, tu vois, tu te prends pour un fort, mais tu n'es qu'un faible. La parole de Jésus a travaillé son cœur, n'est-ce pas? Ça crée un quelque chose. Mais je suis allé un peu vite là. La troisième fois, il est allé encore plus fort quand il a renié le Seigneur. Il a dit, il fit des imprécations et il jura, je ne connais pas cet homme. Et je suis allé trop vite. Je ne connais pas cet homme. Il l'a juré. Vous savez ce que ça signifie, jurer dans l'Ancien Testament, selon la loi, les imprécations, c'est le mot. Ça veut dire que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Il est allé loin. Que je sois puni, frappé, si c'est vrai. Pauvre Pierre. Hein. Et pauvre nous aussi, hein, parce qu'on n'est pas plus fort que lui. Hein. Donc, vous voyez, c'est suivre le Seigneur, c'est bien, il faut suivre le Seigneur. Il y a l'appel, il y a les grâces, il y a les miracles, mais il faut comprendre que nous devons être armés contre l'adversité. Parce que les temps ne sont pas faciles, et aujourd'hui, en réalité, ils sont faciles. Mais ils peuvent devenir plus difficiles. Et nous pouvons subir plus d'opposition, de persécution et de choses semblable comme à certaines époques. Donc il appelle une malédiction sur lui, s'il soit frappé. Il dit, je suis innocent. Ah non, c'est pas vrai. Alors là, eh bien, n'est-ce pas, il entend le coq, en effet, comme je vous disais. Et il se ressouvient de la parole de Jésus et il sort et il pleure amèrement. Ça s'appelle les larmes de la repentance, n'est-ce pas ? Réfléchissant, enfin il réfléchit. Hein ? Il réfléchit et il pleure et il sort et il est dans l'amertume. Et quelque chose aussi qui a provoqué le rétablissement de Pierre, parce que nous sommes là déjà dans le rétablissement. Le Seigneur s'est retourné et Pierre, le regard de Jésus et de Pierre s'est croisé. Et là, il est sorti, il a pleuré amèrement. Déjà, il y a un élan de restauration, n'est-ce pas ? Le regard de Jésus. Alors, je pense que le regard de Jésus, je l'interprète comme ça, ce n'est pas un regard de jugement en disant « Pierre, comment tu m'as renié ? Alors si tu m'as renié, je te renie aussi. » Non, non. Un regard de compassion, un regard d'amour, un regard de grâce. Je trouve que c'est beau, ça. Ça parle. Seigneur, donne-nous toujours la force d'être fidèles à toi, hein. Le regard de Jésus, les larmes, il court au sépulcre, il reçoit un message de Jésus, Jésus, la résurrection. Allez dire à Pierre, ah, ça c'est formidable, il ne m'a pas renié, n'est-ce pas ? Il aura une rencontre spéciale. Et le point de, on pourrait dire, de restauration, c'est quand Jésus lui dira, mais m'aimes-tu ? Et trois fois il doit confesser, il a renié trois fois, mais trois fois il doit dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et à la fin, il en est devenu un peu triste parce qu'en réalité, Jésus voulait enfoncer le doigt en lui disant « Tu vois, si tu m'avais vraiment aimé, eh bien, tu ne m'aurais pas renié. » Et c'est pour ça que nous avons besoin que notre amour pour le Seigneur puisse se fortifier, se renouveler, dire « Seigneur, donne-moi de t'aimer avec vérité, avec sincérité, avec force, avec de tout mon cœur, que je sois fidèle. » Que je te suive jusqu'au bout et que rien ne m'arrête, que rien ne m'arrête. Et le Seigneur a été fidèle parce qu'après cette confession, il l'a restauré et au jour de la Pentecôte, il est rempli du Saint-Esprit et il annonce la bonne nouvelle. Moi, je voudrais que un dernier verset s'affiche qui va être la conclusion de cette parole. Vous avez compris, c'est une parole de Jude. Qui dit ceci, il n'y a qu'un chapitre, alors c'est facile, et un verset. Or, à celui qui peut, qui veut, n'est-ce pas, ce n'est pas écrit, vous, nous, moi, préserver de toute chute, non seulement il peut nous préserver de toute chute, et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible, et dans l'allégresse, dans la joie, n'est-ce pas ? Alors, on peut glorifier le Seigneur, hein, lui dire merci Seigneur, parce que tu as pris un jour ma main, et des fois, moi, je tire un peu ma main, n'est-ce pas ? La main, elle glisse un peu, mais tu la reprends de nouveau, afin que je persévère, que je sois debout, et que quand tu vas paraître, eh bien, nous aussi, nous puissions paraître devant lui, dans sa gloire, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci, ce matin encore, tu parles à nos cœurs, c'est vrai, tu nous montres que comme Pierre, bien souvent, nous sommes dans la faiblesse encore. Il faut être honnête, il faut être vrai. Nous ne sommes pas si forts que ce que nous paraissons. Mais dans ton amour, tu es là pour nous relever, tu es là pour nous restaurer, tu es là pour nous rétablir. Tu peux nous préserver et tu veux nous préserver et tu vas nous préserver. Tu vas nous mettre à l'abri, Seigneur, parce que tu as dit « Nul ne les ravira de ma main ». Notre part, c'est de demeurer dans ta main, Seigneur. Et ce matin, nous ne voulons pas quitter ta main. Nous ne voulons pas descendre de ta main, mais nous voulons rester en toi, Seigneur, dans ta parole, dans tes commandements, dans ton amour, afin que tu demeures en nous et que nous soyons debout, debout. Nous ne voulons pas dormir, nous ne voulons pas avoir confiance en nous-mêmes, nous ne voulons pas faire comme Pierre, mais nous ne voulons pas te renier, loin de là. Mais nous voulons confesser encore ce matin que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour véritable, d'un amour profond et d'un amour qui nous tient debout encore par ta grâce. Alors Seigneur, visite nos cœurs ce matin. Communique-nous ton esprit, ta direction, ta pensée, tes forces. Remplis-nous de toi et que nous puissions te suivre encore. Seigneur, nous ne sommes pas arrivés, nous sommes en chemin, mais nous ne voulons pas faiblir. Nous ne voulons pas nous arrêter, nous ne voulons pas te renier, t'abandonner, que sais-je encore. Mais nous voulons être fidèles, parce que tu nous l'as dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen.